Judaïsme pluriel. Un regard sur les sciences, l'histoire, la musique, la littérature, animé par Roland Bentoussan. Chers amis, bonjour. Eh bien, j'ai le plaisir de recevoir une fois de plus Ingar Lazar pour la suite de la première émission que nous avons faite avec lui. Je vous rappelle que Ingar Lazar est concertiste pianiste. Bonjour Ingar.
Bonjour.
On est très heureux de vous retrouver.
Merci beaucoup Roland.
Alors, la première émission, on a beaucoup parlé, mais on avait tellement d'autres choses à se dire qu'on se retrouve encore, et avec beaucoup de plaisir. Alors, on parlait justement de ces concerts, non pas des concerts à pied levé dont vous avez parlé, mais des concerts prévus à l'avance. Et je voulais savoir si c'était vous qui choisissiez le programme ou si on vous le demandait.
Oui, même quand il ne s'agit pas de concerts au pied levé, ça dépend toujours un peu du contexte et du parce que chaque engagement est évidemment particulier. La plupart du temps, je peux évidemment être entièrement maître du programme, mais parfois, quand il s'agit d'un festival en particulier, ou c'est pour une, par exemple, je sais pas, cette année on fête les 200 ans de la naissance de César Franck, par exemple. Donc c'était également mon intention, évidemment, de jouer des œuvres de Franck cette année pour rendre hommage à ce compositeur. Mais pour vraiment donner une image un peu plus particulière des programmes en général, une des histoires les plus originales que j'ai à raconter, c'était quand j'ai joué pour la première fois à Limoges, au festival 1001 notes. C'était déjà il y a quelques temps. Donc j'étais en contact avec le directeur Albin de la Tour, qui, à l'époque, maintenant il a changé. Mais à l'époque, chaque année, il avait un thème particulier pour son festival. Et cette année-là, c'était la musique de film. Mais c'était pas la musique de film au sens où on pourrait l'imaginer habituellement. Il m'avait demandé d'imaginer quelque chose de bien plus particulier, de raconter l'histoire d'un film en musique. Il m'a dit ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, n'est-ce pas? Et après, il me disait, ce qu'il voudrait, c'était de raconter l'histoire de Pulp Fiction. Là, je me suis dit, alors là, ça va, je ne sais pas si je vais vraiment arriver. Je lui ai dit que j'ai besoin de quelques jours de réflexion, n'est-ce pas? Donc, j'ai réfléchi, qu'est-ce que je pourrais faire, et tout ça. Et ensuite, j'ai pensé à Nino Rota et au film Le Parrain.
Le Parrain.
Et je lui ai dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être imaginer quelque chose autour du Parrain? Et il me dit, ah, mais oui, mais c'est une très très bonne idée, donc voilà, proposez-moi un programme, mais il doit absolument raconter l'histoire du film. Alors, j'ai regardé le film, de nouveau, et finalement, je pense que j'ai réussi, parce que pour ce programme, j'ai commencé avec la marche nuptiale de Mendelssohn Liszt, vu que le film commence par un mariage, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai joué Montaigu et Capulet de Prokofiev pour montrer le conflit des familles mafieuses. Et j'ai terminé la première partie de ce récital par la sonate Les Adieux de Beethoven, qui coïncidait parfaitement à l'année d'exil d'Al Pacino en Sicile, n'est-ce pas? Puisque c'est Les Adieux, l'absence, le retour. Et ensuite, j'avais joué également une œuvre originale de Nino Rota pour piano, parce qu'il a composé énormément d'œuvres. Et pas que de la musique de film, on le connaît, le grand public.
Moi, je connais surtout pour les films.
Exactement, mais il a écrit beaucoup d'œuvres, il était d'ailleurs un remarquable pianiste. J'ai joué pour ce concert sa fantaisie en sol,
oui.
Ensuite, j'ai joué également la marche funèbre de la deuxième sonate de Chopin. Et j'ai terminé par, après une lecture du Dante, de Liszt, voilà, puisque tout le monde va en enfer, n'est-ce pas ? Donc ça, c'était le programme de ce récital qui racontait l'histoire du film Le Parrain. Et aussi, pour chaque œuvre, j'avais sélectionné moi-même une image du film qui correspondait à ce passage.
Ben, dites-moi, voilà. Ça représente un certain travail.
Oui, oui, évidemment, il y avait un grand nombre d'œuvres que j'avais apprises forcément pour ce projet, mais je pense que c'était formidable comme aventure. Parce que c'est un programme qui peut être en même temps extrêmement beau et cohérent sans l'histoire du film, et avec l'histoire du film, évidemment, c'est le truc en plus, on va le dire.
Bravo. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est que on puisse parler de l'organisation d'un concert. Vous avez pris date. D'abord, je suppose que vous avez un impresario.
Oui, j'ai un agent en France, en general management, et je collabore également avec deux autres agents pour des projets spéciaux, un en Autriche et un autre en Italie.
Vous aimez bien voyager.
Disons que quand on est musicien, concertiste, il vaut mieux aimer voyager, parce qu'on n'a pas trop le choix.
Ah, mais c'est un plaisir aussi, non ?
Oui, absolument. Ouais. Heureusement, moi j'aime beaucoup voyager, donc ça tombe bien.
Alors, des petites questions qu'on ne pose jamais, parce qu'on n'a pas cette relation que nous avons, nous. Par exemple, le piano du concert.
Le piano du concert, même pour le piano du concert, il n'y a pas de règles figées. Parfois, et ça arrive même assez souvent, on peut avoir à choisir entre différents instruments. Par exemple, à la Roque d'Anteron, je pense qu'il y a même 4 pianos, et on peut choisir donc, sur lequel on veut jouer. Mais pour ces concerts que j'ai fait à la Criée, il n'y avait qu'un seul piano et on devait jouer dessus.
C'était un Steinway, vous
m'avez dit. C'était un Steinway, tout à fait. Et je dois dire qu'après, ça fait vraiment partie de notre métier aussi de s'adapter à l'instrument sur lequel on doit jouer. Ça fait partie du métier et aujourd'hui, on a quand même la tâche qui est plus facile qu'au 19e siècle. N'est-ce pas, quand à cette période, il y avait beaucoup de pianos qui étaient extrêmement différents, qui avaient même la taille des touches variées, les mécanismes variés, le travail d'adaptation était beaucoup plus difficile. Et malgré tout, les interprètes de l'époque le faisaient sans problème apparent. Donc aujourd'hui, tous les pianos, même si c'est des marques différentes, sont construits d'après le modèle des pianos Steinway. Mmh. Ce qui facilite quand même la chose. Et après, évidemment, il faut. C'est pour ça qu'on a toujours la répétition dans la salle avant le concert pour découvrir l'instrument, parce que bien sûr que chaque instrument a quand même ses particularités. Il faut bien savoir comment le manier.
Alors, quelles sont ses particularités ? D'abord, le toucher, je suppose, mais il y a bien d'autres choses.
Oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses différentes, même compte tenu de l'acoustique, la manière dont on va utiliser la pédale, toutes ces choses-là. Chaque pédale, bon, évidemment que les pédales sont les mêmes, mais elles réagissent différemment. Il y a toujours les questions de balance, n'est-ce pas, entre les registres. Et même les questions d'enfoncement des touches, et même les techniciens peuvent changer énormément de choses également.
Sur le même piano ?
Sur le même piano, tout à fait.
Et ils vont changer les choses en fonction de quoi ? Des œuvres qui vont être interprétées ou...
Même en fonction de ce que les artistes leur demandent. Parfois, il y a des pianistes qui voyagent toujours avec leurs techniciens. Je pense à Horowitz, je vais donner un exemple qui va nous faciliter la tâche, n'est-ce pas ? Parce que Horowitz, il voyageait toujours avec son piano.
Son piano ?
Avec son piano, oui, tout à fait. Et quand il a fait son retour à Moscou en 1986, dans la grande salle du conservatoire, il a voyagé avec son Steinway, qui est venu de New York, des États-Unis, qu'il a suivi à Moscou. Et un de mes professeurs qui s'appelait Dimitri Bashkirov, qui nous a malheureusement quittés il y a un an, il m'avait dit que lors de ce concert en 86, il a eu la permission, pendant l'entracte, d'aller essayer le piano. Et il m'avait dit que c'était absolument surprenant parce que le piano était extrêmement léger. C'est-à-dire que il suffisait de jouer piano pour obtenir un son mezzo forte.
Ah oui.
Donc il était extrêmement léger. Il faut dire que Horowitz avait déjà un certain âge, donc peut-être qu'il avait moins de force. Mmh. Mais malgré tout, sur ce piano qui était difficilement contrôlable dans le sens des nuances piano, vu que déjà en jouant doucement, il était assez puissant, il pouvait malgré tout atteindre des sonorités d'une délicatesse infinie. C'est ça qui est formidable. Et c'est pour ça qu'il voulait vraiment jouer que sur son piano, parce qu'il le maîtrisait très très bien, il le connaissait parfaitement, il ne voulait pas prendre de risques, et il était vraiment adapté à son jeu de cette époque.
Et il avait son accordeur avec lui ?
Oui, il avait son technicien qui était venu avec lui, tout à fait. Mmh. Et il y a encore certains pianistes qui font cela aujourd'hui aussi, qui voyagent avec leur piano.
Ah oui.
Je pense que Christian Zimmermann le fait,
ah oui,
par exemple. Et à l'époque, il y avait évidemment d'autres pianistes qui le faisaient. Michelangeli, par exemple, voyageait toujours avec son piano.
Ça, c'est quelque chose que je ne savais pas. Vous voyez, que personne ne sait. Il faut vraiment entrer dans ce détail-là.
Oui, mais parce qu'il y a tout un travail, n'est-ce pas, d'équilibre, d'adaptation pour l'instrument, que ces très très grandes personnalités ne voulaient donc pas prendre le risque, du coup, de se retrouver face à un instrument qui ne correspondait pas à ce qu'ils voulaient.
Et est-ce qu'il y a une adaptation par rapport à la dimension de la salle ?
À la dimension de la salle,
à la résonance.
À la résonance, oui. À la dimension, ça dépend, parce qu'il y a des très très grandes salles qui portent si bien qu'on a l'impression que c'est pas de grandes salles. N'est-ce pas ? C'est d'ailleurs ça les bonnes acoustiques, quand le son ne se perd pas comme ça. Mais parfois il y a des petites salles où le son se perd. Donc c'est vraiment une question de l'acoustique plutôt que de la taille de la salle.
Ah, d'accord. Et on règle le piano en fonction de ça ou non, c'est indépendant?
Non, enfin on joue différemment, on adapte notre jeu en fonction de cela, n'est-ce pas? Et même pour les questions de pédales, évidemment dans une salle qui est sèche, qui ne porte pas, on va mettre plus de pédales pour ajouter de la résonance, n'est-ce pas? Et quand la salle a une acoustique chaleureuse naturelle, du coup on peut utiliser moins de pédales si on le souhaite.
Combien de temps vous faut-il pour vous adapter à ce piano de concert ?
Il n'y a pas de règle générale, disons que même une vingtaine de minutes, une demi-heure suffisent. Mais après, pour qu'on soit bien à l'aise, voilà, on a une heure et demie, comme ça, on a vraiment pu essayer plusieurs choses dans différents registres.
Par exemple, cet après-midi, vous allez aller à la Criée ?
Oui, tout à fait, je vais aller à la Criée, mais bon, je connais déjà les lieux compte tenu que j'ai joué hier. Hier, j'ai eu une heure de répétition à disposition. Mmh. Et aujourd'hui, ce sera différent aussi parce que je vais répéter pour l'œuvre solo que je vais jouer, Der Wanderer de Schubert Liszt, que je vais jouer ce soir, mais je vais également répéter avec la violoniste Sarah Jego-Sajman et également avec le clarinettiste Michel Letiec.
Je regrette bien de ne pas pouvoir venir ce soir, mais ce soir c'est Shabbat. Non, je ne peux pas.
Je suis sûr qu'on aura d'autres occasions.
Oh, ben j'espère.
Et d'ailleurs,
bien.
Avec Michel Letiec, on va faire une pièce de klezmer.
Ah oui.
Voilà. Donc de Béla Kovács.
Alors, est-ce que les sens qu'on utilise pour fabriquer un piano intervient énormément dans sa réponse en fréquence, dans sa résonance, dans...
Évidemment que le matériel est primordial et que cela se traduit par le son qu'il produit, évidemment. Mmh. Évidemment, donc ça, c'est des choses qui sont indissociables. Mmh. Et même pour les questions de résonance, je sais que Barenboim, il a maintenant construit un piano qui se rapproche plus de point de vue construction, qui se rapproche des pianos du 19e siècle, c'est-à-dire où les cordes ne sont pas croisées.
D'accord.
Bon, je n'ai pas pu l'essayer, le piano de Barenboim, mais c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'avec les cordes croisées, ça facilite beaucoup un des registres, c'est-à-dire le registre plutôt qui est supérieur, donc la partie chantée dans la main droite, mais ce n'est pas toujours extrêmement facile de faire ressortir les voix intermédiaires parce que le registre où les cordes sont croisées est du coup un peu plus pâteux. Mmh. Et c'est pour ça que sur les pianos d'époque, on ne rencontre pas ce genre de problème. N'est-ce pas ? Donc je serais curieux à l'occasion de pouvoir essayer ce piano.
Tout à fait. Je vous comprends. Voilà, nous venons d'écouter musique égyptienne, musique l'égyptienne. Et alors, dites-nous quelques mots sur ce...
Toujours donc de la suite de Rameau. Donc, comme je l'avais évoqué dans notre précédente émission concernant les sauvages, Rameau a vécu donc au siècle des Lumières et c'était surtout une vision idéalisée de l'étranger. Donc, c'est surtout... Je pense ce qu'il s'imaginait lui-même comme musique égyptienne, n'est-ce pas ? On ne peut pas vraiment dire que c'est de la musique traditionnelle égyptienne. Mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance, je dois dire, pour ses œuvres, parce que j'ai pu les travailler également sur clavecin. Et c'est quelque chose qui est tellement enrichissant de point de vue imagination et pour tout, pour la conception du son, pour l'ornementation, tout ça, c'était un enrichissement formidable. Donc j'ai pu les travailler sur clavecin et les jouer en concert également. Donc on peut retranscrire ces idées sur le piano moderne d'une bien autre manière, du coup.
Vous me disiez tout à l'heure que la construction des pianos avant et puis maintenant est totalement différente et que... Certains compositeurs seraient étonnés de jouer sur les pianos modernes.
Ils seraient surtout étonnés, je pense, de l'uniformité de la chose. Parce que Liszt, il a connu les pianos Steinway. Je pense même qu'il avait contribué pour une des campagnes publicitaires des pianos Steinway.
Ah oui.
Il les trouvait remarquables. Mais je pense juste le fait d'uniformité qui peut-être les gênerait. Parce que c'était vraiment une richesse particulière. Parce que comme les pianos étaient... En fonction des facteurs étaient construits de manière différente, on pouvait à chaque fois faire ressortir un autre aspect. N'est-ce pas ? Et maintenant, tout est beaucoup
uniforme.
Plus standardisé.
Ah oui. Mmh.
Tout à fait. Donc je pense que c'est plutôt cette chose de l'esprit. Mais après également, il faut juste connaître ces différentes options et on peut les retranscrire sur nos pianos modernes. Je peux même donner des exemples un peu plus techniques. Par exemple, la manière dont Beethoven écrit les accents qui vont être joués de manière tout à fait naturelle sur le pianoforte, il faut avoir dans son oreille interne, il faut pouvoir imaginer la manière dont on les jouerait sur les pianos d'époque pour pouvoir recréer ce sentiment sur nos pianos modernes qui se fait de manière moins naturelle, mais on peut y arriver.
Mmh.
Mais il faut connaître la manière dont on les joue sur les pianos d'époque. Et même, par exemple, je vais être peut-être un peu plus technique, mais souvent on dit que la musique de Mozart, par exemple, elle ne devrait pas être jouée avec pédale, ou quasiment pas, parce que sur les pianos d'époque, voilà, on n'utilise pas beaucoup de pédales. Mais les pianos d'époque avaient des étouffoirs qui étaient beaucoup moins puissants, c'est-à-dire qu'ils avaient une résonance qui était plus naturelle. C'est-à-dire qu'on doit utiliser une pédale qui est très intelligente sur nos pianos modernes. Un quart de pédale, donc pas beaucoup de pédale, mais un tout petit peu pour pouvoir recréer cette longueur de son, cette résonance que nos pianos modernes n'ont pas, vu que les étouffoirs sont beaucoup plus puissants.
Je comprends ça.
Voilà. J'espère que je ne suis pas trop technique.
Pas du tout, on comprend tout à fait. Vous avez... qu'est-ce que vous avez comme expérience au niveau de la marque des pianos ? Sur quel piano vous avez joué ?
Oh, j'ai joué sur beaucoup de pianos différents, bien sûr. Et aujourd'hui, je joue principalement sur les pianos Steinway, bien sûr.
Qui sont, c'est le roi pour le concert, Steinway.
C'est le roi pour le concert. Et j'aime aussi également beaucoup les pianos Bechstein, qui sont
de très bons pianos aussi, bien sûr.
Tout à fait. Tout à fait. Mais après, comme je disais, ça varie énormément en fonction des techniciens qui peuvent vraiment transformer un piano.
C'est très important ce que vous nous dites, parce que on pensait qu'un technicien allait régler en fonction des fréquences, etc. Mais il y a plus que ça.
Il y a beaucoup plus que ça, et ça dépend vraiment des techniciens. Mais certains sont de véritables magiciens, ils peuvent radicalement transformer un piano. C'est vraiment formidable, et c'est également un véritable travail d'équipe avec le pianiste également.
Donc il y a quand même une collaboration assez étroite entre le technicien et puis le...
Tout à fait.
Est-ce que des marques comme Erard, Gavo, ça existe encore ou c'est fini ou...
Erard et Gavo n'existent plus.
Ça n'existe plus.
Cela n'existe plus, sauf erreur de ma part. Mais en tout cas, pour Gavo, je suis assez sûr qu'il n'existe plus. Pleyel, je sais qu'ils avaient fait faillite, mais finalement, j'ai vu que maintenant, ils existent toujours. Donc, il y a une renaissance.
Ah.
Je ne sais pas exactement comment... Et j'ai pas joué sur de nouveaux Pleyel, mais je sais que maintenant il y a eu donc cette renaissance, et c'est d'ailleurs formidable parce que c'était quand même les pianos préférés de Chopin, n'est-ce
oui.
pas?
Mmh.
Et Cortot jouait beaucoup sur les pianos Pleyel. Et justement, c'est ce dont je parlais, ils avaient vraiment également une spécificité concernant la sonorité. Et je trouve que c'est formidable de ne pas tomber dans cette uniformité générale et d'avoir plusieurs options. C'est un enrichissement.
Samson François jouait sur quel type de piano, vous le savez ?
Samson François, donc c'est certainement qu'il jouait sur des Pleyel, également sur des Erard, et je pense qu'il devait jouer déjà sur des Steinway aussi.
Mmh.
Il devait avoir déjà beaucoup de sténoïs en France à cette époque. Mais je pense par exemple à Arthur Schnabel. Je sais qu'il était par exemple lui très déçu quand il est allé aux États-Unis parce qu'il ne pouvait pas jouer sur des Bechstein parce qu'il n'était pas très répandu là-bas.
Ah oui.
Et il aimait beaucoup, beaucoup jouer sur des Bechstein, Arthur Schnabel. Thank you.
Voilà, on vient d'écouter Alborada.
L'Alborada del Grazioso de Ravel. N'est-ce pas Grazioso? On pourrait penser que c'est quelque chose de bien gracieux, oui. N'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir. Ah bon. Ça n'a rien à voir. Ça va se traduire par l'aubade du bouffon. N'est-ce pas? Et c'est donc le bouffon du roi qui essaie de séduire l'infante. Mm-hmm. Mais ce n'est pas par un chant des plus sincères, n'est-ce pas? Et voilà, et donc pour ce piano, il faut avoir, pour cette œuvre, il faut avoir un bon piano, n'est-ce pas, pour les notes répétées. Voilà, il doit être bien réglé. Parce que c'est pas évident avec les glissandis non plus. Mais parce que Ravel apparemment pouvait faire merveilleusement bien les glissandis sur les pianos. Il avait une très très grande facilité pour ça. C'est pour ça qu'on retrouve dans cette œuvre des glissandis en tierces et en quartes. Apparemment, pour lui, c'était très très facile. Oui. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup ce genre d'écriture dans ses œuvres. Et les pianos, à l'époque, étaient plus légers aussi que les nôtres. Donc, c'était plus facile. Mmh. Il faut donc qu'ils soient bien réglés pour qu'on puisse bien les faire.
Donc, rappelez-nous, quand est-ce qu'on peut vous écouter encore les prochaines...
Les prochaines dates, donc, ce sera à Louveciennes, près de Versailles, dans le cadre du Festival du Bruit qui pense, qui se déroule du 18 au 27. Moi-même, j'y jouerai le 18, le 20 et le 26. Et pour ce qui est plus proche...
de notre région.
Ce sera le 10 septembre, au Château de Lourmarin.
Alors ça, c'est une date à retenir. Donc, 10 septembre, voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous, Roland, de votre accueil.
Tout ce temps que vous avez consacré. Et puis, je suis sûr qu'on va se retrouver encore.
Oui, tout à fait. Merci encore de votre accueil.
Merci. Au revoir, chers amis.
Au revoir.
C'était Judaïsme pluriel. Alors à la semaine prochaine. Au revoir.